Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30-17h sur Campus Grenoble 90.8. Agathe Legrand.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, il est 16h30, bienvenue dans cette deuxième émission de Microcité, votre rendez-vous actualité sur Radio Campus Grenoble. On se retrouve aujourd'hui pour parler santé mentale. Alors, les assises de la santé mentale ont eu lieu en début de semaine. À cette occasion, Emmanuel Macron a fait une série d'annonces. Quel changement pour les psychologues ? On y reviendra dans le dossier de la semaine avec Anouk Caron et son invité. Dans cette émission également, un endroit insolite, au thé à coudre, le bruit des couverts se mêle à celui des machines à coudre. L'établissement grenoblois attire de nombreux clients. Léa Bouvet vous racontera tout cela à la fin de l'émission. Vous êtes bien sur Radio Campus 90.8, on est ensemble jusqu'à 17h. Microcité, c'est parti! Mais sans plus attendre, le journal avec Gwendoline Langlois. Bonjour Gwendoline.
Bonjour. Le prix du gaz gelé entre novembre et avril, idem pour l'électricité qui sera plafonnée. Avec ces annonces, le gouvernement espère faire face à la flambée des prix de l'énergie, mais ces mesures sont-elles suffisantes ? Reportage en ce début de journal. Le nouveau mode de calcul de l'assurance chômage entre en vigueur aujourd'hui. 4 chômeurs sur 10 devraient voir leur allocation baisser. Léa Bouvet nous explique tout ça dans un instant. Depuis hier, le pass sanitaire est aussi obligatoire pour les 12-17 ans. Alors, les compétitions de foot amateurs sont-elles menacées ? Réponse avec Nina Brunante depuis Grenoble. Un bouclier tarifaire pour limiter la flambée du prix de l'énergie, annonce du Premier ministre Jean Castex hier soir sur TF1. Le gouvernement absorbera les futures hausses du prix du gaz jusqu'en avril prochain. Mais Clémentine Proutot, l'augmentation prévue aujourd'hui est bien maintenue.
Oui, 12,6% de hausse sur le prix du gaz. Une très mauvaise nouvelle pour Marie et son conjoint qui l'utilisent pour cuisiner et se chauffer. Ils dépensent déjà 110 euros par mois, ils ne peuvent pas aller au-delà.
Au lieu de mettre le chauffage à 19-20, on le baissera avec une grosse couverture et se mettre sous la couette le soir.
Djemel utilise lui aussi le gaz pour cuisiner. Cette nouvelle hausse, c'est 120 euros de plus par an, il est fataliste.
Faire à manger, le four, on ne peut pas diminuer, c'est pas possible. Du coup, on fait avec.
Hier soir, Jean Castex a promis qu'il n'y aurait pas de nouvelle hausse du prix du gaz jusqu'en avril prochain. Le gouvernement compte limiter à 4% l'augmentation du prix de l'électricité. Des mesures insuffisantes pour Michel Nami, président du FC Que Choisir en Isère.
Ce que demande l'UFC Que Choisir, c'est qu'il y ait une diminution des taxes, voire une suppression sur tout ce qui touche l'énergie. Le tiers de la facture d'électricité est constitué de taxes et de contributions. Donc si on supprimait ça déjà, ça ferait un gain pour le budget des familles.
Rien de tel pour l'instant. Le Premier ministre a annoncé que le chèque énergie de 100 euros versé en décembre pourrait être revalorisé si nécessaire.
Engie a pris acte de la décision du gouvernement, mais les fournisseurs alternatifs d'énergie ne l'entendent pas de cette oreille et menacent le gouvernement d'une action en justice. Cette mesure fait elle aussi grogner. Le nouveau mode de calcul de l'assurance chômage entre en vigueur aujourd'hui. Et selon l'UNEDIC, un grand nombre de bénéficiaires vont voir leur allocation baisser. Léa Bouvet.
Oui, effectivement, 4 allocataires sur 10, soit plus d'1 150 000 personnes, vont subir une baisse d'environ 17% sur leur indemnisation. En cause, un changement dans le mode de calcul. Jusqu'ici, on calculait l'indemnisation sur le salaire brut perçu dans les 12 derniers mois. Désormais, on comptabilise les 2 dernières années. Mais surtout, on divisait la somme par le nombre de jours travaillés. Or, ça, ce n'est plus le cas. On prend aujourd'hui en compte aussi bien les jours travaillés que les jours chômés. Donc forcément, ceux qui ont eu des périodes d'inactivité sont perdants. En contrepartie, la durée d'indemnisation est allongée. Elle passe en moyenne de 11 à 14 mois. Les plus touchés seront ceux qui enchaînent les contrats courts en CDD, les intérimaires ou encore par exemple les saisonniers. Le texte avait fait l'objet de nombreuses contestations et d'une suspension par le Conseil d'État. Emmanuel Macron a fait savoir que d'ici janvier, d'autres modifications devraient être apportées. Il s'agira notamment d'allonger la période de travail nécessaire pour toucher le chômage. Elle devrait passer de 4 à 6 mois.
Des hausses de salaire en revanche pour 500 000 infirmiers, aides-soignants ou encore kinés avec l'entrée en vigueur aujourd'hui des mesures issues du Ségur de la santé. En ce 1er octobre également, les fiches de paye du secteur de l'aide à domicile connaissent une hausse moyenne de 15%. Le SMIC, lui, augmente de 2,2% à cause de l'inflation, soit 37 euros de plus par mois.
Microcité, ça continue. Vous êtes sur Radio Campus. Il est 16h35.
35 ans de traque, le grêlé a été retrouvé hier. Ce tueur et violeur en série qui avait sévi à la fin des années 80 a été confondu cette nuit grâce à des prélèvements ADN, mais il ne répondra jamais de ses crimes devant la justice. Il s'était suicidé il y a 2 jours après avoir reçu une convocation de la police judiciaire. 5 blessés, dont un grave. Hier soir, 2 fusillades ont eu lieu à Saint-Nazaire. Elles auraient éclaté sur fond de trafic de drogue. L'affaire Big Malion est loin d'être terminée. Nicolas Sarkozy fait appel de la décision rendue hier par le tribunal correctionnel. Il était jugé pour le dépassement du plafond de ses comptes de campagne lors de l'élection présidentielle de 2012. L'ex-président a été condamné à 1 an de prison ferme aménageable en surveillance avec bracelet électronique. Il a reçu le soutien de l'ensemble de la droite et même les amitiés de Jean Castex lors du JT de TF1 hier soir. La Corée du Nord multiplie les provocations. Le pays a effectué un nouveau tir de missile au nez et à la barbe du Conseil de sécurité de l'ONU qui se réunit en urgence ce soir à ce sujet. Avec ses armes, la Corée du Nord menace directement ses voisins, la Corée du Sud et le Japon. C'est un signe d'apaisement entre la France et les États-Unis. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rend en visite la semaine prochaine à Paris pour tenter de calmer les tensions avec les dirigeants français. L'annulation de contrats de commande de sous-marins français par l'Australie au profit des États-Unis la semaine dernière avait provoqué une véritable crise diplomatique. Les associations sportives inquiètent à la veille du week-end. Depuis hier, le pass sanitaire est obligatoire pour les 12-17 ans. Dans certaines fédérations sportives, les adhérents sont presque tous vaccinés. Mais près de Grenoble, au football club d'Échirolles, on risque de manquer de joueurs. Nina Brunante, les compétitions de foot amateur sont-elles menacées?
Au club, c'est l'inquiétude. Combien de jeunes pourront disputer les matchs de football ou venir à l'entraînement? Le père Dylan, 13 ans, craint l'hécatombe.
J'attends de voir comment ça se passe. Sur une trentaine de gamins et avoir 3-4 gamins qui ont dû faire le vaccin. On est tous un petit peu perdus.
Il va falloir attendre demain et les prochaines rencontres pour être fixé. L'accès tardif à la vaccination pour cette classe d'âge et les craintes autour du vaccin expliquent qu'un grand nombre de jeunes joueurs n'aient pas encore leur passe sanitaire. Au bord du terrain, ce père de famille n'est pas encore décidé à franchir le pas.
L'ARN messager, on ne sait pas quelles répercussions ça aura par rapport au futur de nos enfants.
Mais il ne veut pas pour autant priver son fils d'entraînement et de match.
Il y a l'alternative des tests PCR et antigénique, donc on va commencer par ça.
L'instauration du pass sanitaire pour les adolescents est un problème pour les clubs de foot de la région. Hervé Giroud-Garampon est le président du district de foot de l'Isère.
On a des clubs qui retirent des équipes qu'ils avaient engagées, on a une baisse significative de notre nombre de licenciés. Je crois que nos gouvernants n'ont pas tellement réfléchi à la problématique du sport amateur.
En France, près d'1 500 000 jeunes de 12 à 17 ans n'ont encore reçu aucune dose de vaccin. C'est 1 adolescent sur 4.
Enfin, lui n'a pas eu besoin de passe sanitaire. Après 107 jours d'efforts, Guirec Soudé a enfin touché terre. Le navigateur de 29 ans vient d'achever une traversée de l'Atlantique à la rame. Il était parti mi-juin des États-Unis. À cause d'une tempête début juillet, il avait perdu toute communication. Il a enfin accosté au port de Brest il y a un peu plus de 2 heures.
Merci Gwendoline pour ce journal. On vous retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres. Il est 16h38. Dans un instant, le dossier de la semaine avec Anouk Caron. Elle recevra une psychologue pour discuter des assises de la santé mentale. I'm trying to be a soul searcher and I get to know myself. C'était The Other Inside Me de Youless. Vous êtes sur Radio Campus Grenoble et il est 16h42.
Le dossier de la semaine.
Une première en France, les Assises de la santé mentale se sont tenues cette semaine à Paris. Durant ces deux jours, un état des lieux de la santé mentale des Français a été effectué. Emmanuel Macron en a profité pour faire une série d'annonces. C'est le dossier de la semaine avec Anouk Caron. Bonjour Anouk.
Bonjour. Et aujourd'hui, pour discuter de tout ça, nous sommes avec vous, Nawel Benjabala, psychologue clinicienne en libéral depuis un peu plus d'un an. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ces assises de la santé mentale, on l'a entendu, c'est une première. Est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'on prenne du temps pour aborder ces questions ?
Ah oui, évidemment, c'est une excellente nouvelle qu'on prenne du temps pour aborder toutes les questions autour de la santé mentale. Aujourd'hui, tout le monde est concerné par la santé mentale. Donc, effectivement, le fait que ce soit des assises inédites, ambitieuses, c'est merveilleux, j'ai envie de dire. Après, le reste et les mesures, à en discuter.
Justement, donc, on va développer tout ça un peu plus tard avec vous. Mais avant, avec Clémentine Proutot, on va parler des annonces faites par Emmanuel Macron mardi soir. Clémentine, il a promis plusieurs mesures.
Oui, et la principale, c'est le remboursement des séances chez le psychologue. Sur prescription de la part de son médecin généraliste, il sera possible de bénéficier de 8 consultations remboursées par l'assurance maladie. Ces consultations concernent tout le monde, même les enfants à partir de 3 ans. Les psychologues qui acceptent le dispositif seront payés 40 € pour la première séance, 30 € pour les suivantes. Autre mesure, la création de 800 postes dans les centres médico-psychologiques. La France en compte 1800. Ces emplois permettent de réduire le temps de prise en charge des patients, patients qui peuvent parfois attendre environ 1 an et demi, ce qui est un délai assez long. Surtout quand on l'imagine, on ne va pas très bien. Et ensuite, autre mesure, il faut mieux comprendre comment fonctionne le cerveau humain. 80 millions d'euros seront donc dédiés à la recherche afin de déterminer comment se déclenchent les maladies psychiques comme la dépression, la schizophrénie ou encore la bipolarité.
Donc on l'a entendu, la mesure phare annoncée par Emmanuel Macron, c'est le remboursement des séances chez le psy. Donc Nawel Benjabala, vous qui êtes psychologue, est-ce que ça c'est une bonne chose ?
Alors oui, le remboursement en tant que tel, c'est une très bonne nouvelle et c'est une très bonne chose. Ensuite, le dispositif en l'état, en tout cas tel qu'il est proposé actuellement, je ne suis pas certaine que ce soit une bonne chose. En tout cas, pas pour moi.
Alors, pour quelle raison ?
Pour quelle raison ? Eh bien, parce que déjà, ce dispositif tel qu'il est présenté vient compliquer vraiment l'accès aux soins, finalement, alors qu'on pourrait penser le contraire. Mais il le complique puisqu'il rend le parcours d'accès aux soins vraiment épuisant, voire maltraitant pour le patient. Et ensuite, c'est aussi très difficile derrière pour le psychologue de réussir à vivre avec aujourd'hui les sommes proposées par ce dispositif.
Quand vous parlez d'un dispositif dégradant et alourdi, j'imagine que vous parlez du médecin traitant, du fait que maintenant, pour bénéficier du remboursement des séances, il va falloir passer par un médecin traitant. Pourquoi ça, c'est un problème selon vous ?
C'est un problème selon moi parce que déjà, le médecin traitant aujourd'hui, on va dire pour un rhume, des fois, ça peut être compliqué d'en rencontrer un. Donc là, déjà, ça rajoute un peu de temps entre le moment où on sent qu'on a le besoin d'aller consulter un psychologue et le temps où on a enfin accès au psychologue. Ça ajoute aussi des soucis du côté de la confidentialité, puisque finalement, maintenant, on est obligé en fait, de dire à 2 personnes différentes qu'on a besoin de consulter un psychologue. Et puis, à côté de ça, donc le patient doit aller chez le médecin. Ensuite, le médecin lui fait une ordonnance pour le renvoyer vers un psychologue. Le psychologue établit là, à ce moment-là, un bilan. Le patient est renvoyé chez le médecin avec ce bilan. À partir de là, il a des consultations entre 3 à 10 consultations. Je vous ai entendu dire 8, mais c'est 3 à 10 consultations chez un psychologue. Et puis du coup, 3 à 10 consultations qui durent 30 minutes en fait. Donc 30 minutes, en 30 minutes, j'ai envie de vous dire, on n'a pas vraiment le temps d'accompagner qui que ce soit. Ce n'est pas de la thérapie, ce serait peut-être du soutien psychologique, mais ce n'est pas de la thérapie.
Est-ce qu'on peut quand même dire que 30 minutes, certes, c'est court, mais c'est mieux que rien ?
Je crois que ça, c'est une question qu'il faut poser aux patients aussi. Alors moi, de mon côté, je trouve que c'est trop peu, puisque déjà, ne serait-ce que le temps administratif de la prise de rendez-vous, du paiement, du rendez-vous, fait qu'à la fin, finalement, on en revient à 15 à 20 minutes de consultation seulement. Donc, et puis après, du côté des patients, même si voilà, je ne vais pas parler nécessairement en leur nom, mais j'ai quand même demandé à mes patients de me faire un retour à ce sujet. Ils me disent bien qu'en 30 minutes, on va dire même 15-20, ils ont le temps de dire que ça ne va pas, mais en fait, on n'a pas le temps d'avancer ensemble. Et puis voilà, 15 à 20 minutes, c'est pas possible, quoi. Enfin, je veux dire, le temps de créer cette alliance thérapeutique, de se faire confiance, finalement, ces 3 à 10 séances, elles sont vraiment pas suffisantes du tout.
Donc, selon vous, ça reviendrait à faire un peu du travail à la chaîne, c'est ça ?
C'est ça, c'est totalement ça. C'est du travail à la chaîne. Donc, j'ai envie de vous dire, pour réussir après à s'en sortir, nous, du côté des psychologues, financièrement, ça veut dire qu'on va devoir recevoir 15 patients par jour. 15 patients par jour, si des collègues en sont capables, eh bien, chapeau. Mais moi, en tout cas, je n'ai pas la même disponibilité psychique pour 5 personnes et pour 15 personnes. Donc, comme j'ai envie de continuer à aimer mon métier, je ne peux pas recevoir 15 personnes par jour, ce n'est pas possible.
Est-ce que vous entendez que, par exemple, pour des psys qui viennent de s'installer, ça peut être quand même un début de rentrée d'argent ?
Ça peut être un début de rentrée d'argent, mais ils vont vite se rendre compte que finalement, ils gagneront rien du tout, parce que cet argent va tout juste leur permettre de payer leur loyer. Sauf qu'un psychologue, quand il a un cabinet, il paye pas seulement son loyer. Bon, déjà, il sort un salaire, évidemment. Et à côté de ça, il paye un superviseur, il paye des formations, il paye une mutuelle, comme tout le monde, j'ai envie de dire, une assurance pour son cabinet. Donc, ça peut paraître alléchant, mais c'est vraiment pas du tout suffisant, quoi.
Oui, donc on entend avec vous, Nawel Benjabala, que cette mesure ne vous convient pas, au moins que vous la nuancez. Mais il y en a tout de même certains qui trouvent que c'est une bonne idée, et c'est le cas de Pauline.
Je vais chez les psys depuis 1 an et demi, 2 ans. Je fais 4 séances de psy par mois, à 55 euros la séance. Donc, ce qui fait 220 euros par mois, donc ce qui est un énorme budget parce que je suis étudiante et que je ne peux pas me le payer moi-même. Donc je trouve que c'est une décision qui est vraiment très bien, que ce soit pour les étudiants ou pour les personnes un peu plus âgées, parce que je pense que certaines personnes ne peuvent pas se permettre de dépenser autant d'argent dans des soins pareils. Et pourtant, c'est des soins aussi importants que les soins chez le médecin généraliste.
Donc on peut aussi se dire que le remboursement des consultations, ça va potentiellement permettre à des gens qui n'en ont pas les moyens de pousser la porte des cabinets de psychologues, parce que c'est des tarifs qui vont de 50, 70, peut-être plus. Et là, comme elle le dit, c'est 4 fois par mois, ça fait quand même un budget conséquent.
C'est sûr, c'est un budget conséquent, mais du coup, je me demande si en poussant la porte des cabinets de psychologues qui voudront bien participer à ce dispositif, est-ce que finalement le patient n'ira pas en fait un peu plus mal encore en étant mal pris en charge ? Donc, j'entends ce que dit cette étudiante. Hein. Après, c'est sûr qu'il y a toujours des psychologues qui pratiquent quand même des tarifs étudiants. Une consultation chez le psy peut rester négociable. Donc, voilà, je pense que ce qui serait bien surtout, c'est d'augmenter les remboursements, en fait, d'avoir un remboursement à la hauteur des tarifs actuels des psychologues.
C'est votre cas, vous faites des tarifs étudiants ?
Oui, moi, ça peut m'arriver de faire des tarifs étudiants. C'est vraiment au cas par cas. J'ai des collègues qui, elles, ont des tarifs vraiment spécifiques étudiants. Moi, c'est vraiment au cas par cas que je discute de ça avec la personne.
On est toujours sur Radio Campus Grenoble, en plein débat sur la santé mentale, et il est 16h51.
Alors évidemment, on ne peut pas parler de santé mentale sans évoquer ce qu'on vit depuis plus d'un an et demi maintenant. On est en pleine crise sanitaire. Les confinements, l'isolement, tout ça aussi, ça a fait des dégâts sur la santé mentale des gens.
Pour Charlotte, le retour en amphi a été assez brutal.
On n'était plus habitué du tout à avoir autant de monde. Du coup, retourner dans des cours avec autant de personnes, ça peut être très anxiogène. Pour moi, étant dans une ville loin où je ne connais pas forcément grand monde et que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer des gens avec le Covid, etc., on se sent assez seul, c'est sûr.
En cas de coup de blues, Charlotte peut compter sur Alpiline, une ligne d'écoute psychologique pour les étudiants. Au départ, elle devait s'arrêter à la fin du second confinement, mais Léa, une de ses créatrices, ne compte pas raccrocher de sitôt.
Même s'il n'y a plus le problème des confinements, il y a quand même toujours un problème d'isolement social et puis il y a toujours ce grand problème de la santé mentale. En fait, ce n'est pas nouveau avec les confinements, c'est juste ressorti.
Autre signe de la détresse persistante des étudiants, il faut un mois d'attente pour obtenir un rendez-vous avec Sylvie. Depuis la rentrée, les consultations assurées par cette psychologue au centre de santé universitaire affichent complet.
Cette rentrée, elle est déjà très chargée avec des discours et des souffrances autour de « on a passé un an un peu à part ». Et ils se retrouvent encore avec des exigences fortes, sans qu'il y ait eu finalement un intermédiaire. Ça c'est fini, il y a eu les vacances, on recommence et on recommence comme avant.
D'après l'Observatoire de la santé des étudiants grenoblois, plus de 40% des étudiants de première année estiment que la crise sanitaire a eu un impact négatif à long terme sur leur santé mentale.
C'était le reportage de Nina Brunante. Donc 19% des Français se disent anxieux, c'est 6 points de plus qu'avant la pandémie, d'après l'enquête Covipref qui suit l'évolution des comportements et la santé mentale des Français pendant la période d'épidémie de Covid-19. 9% des Français aussi ont des pensées suicidaires. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez constaté, Nawel Benjabala?
Oui, tout à fait. Moi, c'est quelque chose que j'ai constaté dans mon exercice en libéral, puisque ça fait un an et demi maintenant que je suis en libéral. Avant ça, j'étais en institution. Et c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont venues consulter pour la première fois un psychologue suite au confinement et suite à tous les effets de la crise sanitaire.
Est-ce que les personnes les plus fragiles psychologiquement ont été encore davantage fragilisées ? Aussi.
Oui, je pense que c'est vraiment venu renforcer des troubles, ou en tout cas des personnes voilà, qui avaient des, entre guillemets, atteintes légères, on va dire, et qui aujourd'hui, pour certaines, n'arrivent plus du tout à sortir de chez elles. Mmh. Donc effectivement, ouais, c'est venu renforcer tout ça.
On arrive à la fin de ce dossier. Merci à vous, Nawel Benjabala, d'être venue répondre à nos questions. On rappelle, vous êtes psychologue clinicienne à Grenoble.
Merci beaucoup.
Microcité. En direct jusqu'à 17h.
Il est 16h54 sur Radio Campus 90.8. Pour la suite de cette émission de Microcité, on vous emmène faire un peu de couture, mais attention, pas n'importe où. Faire un brunch entre amis ou rapiécer un jean, et si tout cela était possible au même endroit. À Grenoble, ce lieu existe. Il y a 3 ans, Audrey a imaginé un endroit atypique où consommer autrement tout en mélangeant gourmandise et créativité était possible. Léa Bouvet est allée faire un tour au thé à coudre.
Voilà, 14h, fin de service pour Audrey qui encaisse les derniers clients tout en préparant les cafés. Aujourd'hui, au menu, tagine de patates douces, chou kale et crudité.
On cuisine tout sur place, c'est végétarien. On travaille avec des producteurs et des acteurs locaux, des produits bio aussi, très très majoritairement.
Mais le restaurant salon de thé n'est pas l'activité première de ce lieu. Il est venu ajouter un peu de convivialité à un atelier de couture. Dans la deuxième salle, des tissus soigneusement pliés sur les étagères, des pelotes de laine rangées par couleur, le bruit des machines se mêle à celui des couverts.
Donc j'ai eu l'idée d'un atelier un peu créatif et partagé, où les outils et les machines seraient mutualisés, les compétences aussi. C'est un peu comme un cybercafé, mais version machine à coudre.
Autour de la grande table, un petit groupe mesure, découpe, repasse et assemble les tissus. Justine est co-gérante du thé à coudre.
On a 6 machines à coudre, on a 2 surjeteuses, une centrale vapeur, une grande table de découpe. Alors, vraiment bien équipé. Déjà, l'atelier fonctionne en libre service locatif, donc toutes les machines elles sont à disposition des gens. J'ai plusieurs personnes qui bossent chacune sur leur projet perso.
Ce jour-là, par exemple, pendant qu'une future maman fabrique un coussin d'allaitement, Eliette utilise la brodeuse pour faire des pochettes en tissu pour son mariage.
C'est quand même des machines qui sont onéreuses. Le thé à coudre permet de venir, d'avoir accès à des machines de qualité. Je pense que c'est une des forces de ce lieu.
En effet, pas toujours possible d'avoir chez soi le matériel ou les conseils nécessaires. Le thé à coudre leur permet de réaliser leur projet.
On propose quand même pas mal de cours pour les débutants. Il y en a qui veulent se perfectionner, apprendre à faire des vêtements, faire de la récup, transformer, être un peu plus autonome. Voilà, si on veut juste passer une après-midi à réparer ses vêtements, bah on en a pour une 20aine d'euros. Et puis en plus, on a passé un bon moment.
Sur une table juste à côté, Claire, elle prend une pause pendant sa couture.
Je suis en train de manger parce que j'en ai eu marre de ce que j'étais en train de faire.
Mais c'est pour mieux repartir grâce à un équipement qu'elle ne trouve qu'ici.
J'ai besoin de machines plus modernes que celles que j'ai pour faire des boutonnières, entre autres, que j'avais pas envie de faire à la main.
Au-delà de l'aspect pratique et convivial, le thé à coudre est aussi un endroit avec ses valeurs, où l'on consomme autrement, que ce soit dans l'assiette ou dans le choix des tissus.
En plus du coup de pouvoir réparer ses vêtements, il y a aussi la possibilité de créer avec des matières premières qui sont éthiques, puisque nous on fait de la récup de dons ici type mercerie, tissu, pelote, et de créer à partir de quelque chose qui n'est pas forcément du neuf.
Un engagement qui s'accompagne d'une volonté de rendre cette initiative accessible avec par exemple des tarifs étudiants. 3 ans après l'ouverture, le thé à coudre peut compter sur ses habitués pour remplir aussi bien le restaurant que l'atelier couture.
Des habitués et peut-être maintenant des nouveaux clients. Merci beaucoup pour ce reportage, Léa Bouvet.
Microcité sur Campus Grenoble 90.8.
Et tout de suite, c'est le rappel des titres avec vous, Gwendoline Langlois.
C'est l'un des plus vieux cold case français. Le grillé a été identifié grâce à des prélèvements ADN. Il s'agit de François Vérove, un ex-gendarme qui s'est suicidé il y a 2 jours. Il est accusé d'avoir commis plusieurs meurtres et viols à la fin des années 80. Le gouvernement veut limiter la hausse des prix de l'énergie. Un bouclier tarifaire va être mis en place jusqu'au mois d'avril. Le gaz et l'électricité devaient initialement augmenter de 12% chacun. Une partie de la très contestée réforme de l'assurance chômage entre en vigueur aujourd'hui. Avec ce nouveau mode de calcul de l'allocation chômage, 4 bénéficiaires sur 10 devraient voir leur allocation baisser. Enfin, des perturbations sont à prévoir ce week-end. Le temps sera voilé samedi sur la côte ouest, tandis que le quart sud de lui devrait profiter d'un grand soleil. Mais ça ne durera pas. Dimanche, de fortes pluies remonteront de la Méditerranée. La chaîne météo évoque même de probables inondations dans la vallée du Rhône. Le temps sera donc bien automnal pour ce premier week-end.
Merci Gwendoline pour cette piqûre de rappel. L'émission touche à sa fin. Alors merci à Nina Brunant pour son aide lors de la préparation de cette émission. Merci également à Louis Oscovin à la technique. Alors quant à nous, on va se retrouver, mais dans 2 semaines, le 15 octobre, pour une prochaine émission, toujours à 16h30 et toujours sur Radio Campus. En attendant, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Microcité sur Instagram et sur Facebook. Ou alors, vous pouvez aussi réécouter l'émission en replay sur le site campusgrenoble.org. Vous pouvez également nous soumettre des suggestions pour les prochaines émissions ou tout simplement nous envoyer des messages de soutien, toujours sur nos réseaux sociaux. Donc, je vous rappelle, on se retrouve dans 2 semaines, le 15 octobre. Notez bien ça sur vos agendas. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée.